à Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec en direct de Washington, jeudi 9 août 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Mali, une dizaine de civils peuls ont été enlevés et tués mardi dans la région de Mopti, attaque attribuée aux Dozo, aux chasseurs traditionnels. Côte d'Ivoire, le PDCI rompt avec le RDR, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Soudan du Sud, le président Salva Kiir amnistie son grand rival, Riek Machar. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, voilà plusieurs mois que les tensions persistaient entre les partenaires de la coalition au pouvoir. Ce jeudi, le PDCI a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. C'est donc la fin d'une alliance qui existait depuis 2010. Bagassi Koura.
C'est par un communiqué du président du PDCI, Henri Konan Bédié, que la rupture a été officialisée à 2 mois des élections locales et à 2 ans de la présidentielle. Ce communiqué a été diffusé après une rencontre hier soir entre Bédié et Ouattara. Le PDCI se retire du processus de mise en place d'un parti unifié dénommé RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière, selon son communiqué. Le parti unifié RHDP, créé par le président Ouattara à la mi-juillet, visait à unir sa propre formation, le RDR, Rassemblement des Républicains, avec le PDCI. C'est un véritable danger pour notre parti, le PDCI, a réagi Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources Animales et Halieutiques, animateur d'un mouvement dissident favorable à la coalition RHDP. Cette rupture marque une recomposition du paysage politique en pleine effervescence avec l'amnistie et la libération de Simone Gbagbo et des principaux responsables du FPI, le troisième grand parti du pays.
Au Mali, au moins 11 civils peuls ont été tués mardi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Une attaque attribuée à des Dozo, des chasseurs traditionnels. Ils ont été enlevés alors qu'ils allaient à la foire de Sofara par des miliciens venus à moto. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Et nous restons au Mali. Le verdict de la Cour constitutionnelle ouvre la voie aux consultations auprès des candidats vaincus. Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra sont troisième et quatrième, mais ils n'ont pas donné de consigne de vote. Les deux hommes ont toutefois fait des déclarations ce matin à Bamako avant le second tour prévu dimanche. Le point avec Kassim Traoré.
Après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, des tractations sont en cours à Bamako. Aliou Diallo, candidat de ADP Maliba, arrivé en troisième position.
Chacun et chacun d'entre vous sait en toute conscience quel est son devoir républicain. C'est donc aux Maliens que je laisse le soin de s'exprimer comme ils le souhaitent au second tour de l'élection présidentielle. Je salue à nouveau l'engagement constant de tous mes soutiens à mes côtés. Je tiens particulièrement à remercier la famille du
L'ancien premier ministre Cheikh Modibo Diarra n'a pas jugé nécessaire de donner une consigne de vote à ses partisans.
Remplacer Ibrahim Boubacar Keïta par Soumaïla Cissé n'est pas l'alternance, n'est pas le changement. Ce n'est ni plus ni moins qu'un simple jeu de chaises musicales. Nous disons que chaque entité de notre regroupement conserve son autonomie et est donc libre de son choix à ce deuxième tour.
Si Cheikh Modibo Diarra et Aliou Diallo n'ont pas donné de consigne de vote, les tractations se poursuivent autour des autres candidats. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, un accord politique a été trouvé à Conakry entre l'opposition et la mouvance présidentielle sur le contentieux relatif aux élections du 4 février. L'opposition obtient la désignation de plusieurs présidents des conseils des quartiers et districts, ainsi que plusieurs maires de communes rurales. Conséquence, elle a suspendu une marche qui était prévue ce jeudi à Conakry. Et sur place, Zakaria Camara, correspondant de VOA Afrique.
Il était utile de s'en sortir pour s'occuper d'autre chose, semblait se réjouir Sélou d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, après lecture des conclusions du consensus par Amadou Damarou Camara, chef de la majorité présidentielle. Les résultats auxquels on vient de parvenir ne sont pas toujours satisfaisants par rapport à toutes les revendications, mais nous avons accepté qu'une solution politique soit trouvée, a précisé Sélou d'Alain Diallo, avant d'ajouter que toutes les parties ont fait des concessions. C'est le cas de la désignation par l'opposition de 26 conseillers de quartier et de district, de 6 maires des communes rurales et du maire de Kindia. La mouvance présidentielle, elle, obtient la désignation du maire de Dubreka. Plusieurs partis politiques avaient contesté les résultats des élections locales du 4 février dans 4 des 5 communes de Conakry. Les accords trouvés mercredi recommandent de régler les contentieux dans ces circonscriptions conformément aux dispositions légales. Le point sur le fichier électoral n'a pas été discuté. Le même jour, l'audit du fichier électoral était officiellement lancé. Après la signature des accords, le chef de file de l'opposition a annoncé la suspension de la marche qui était programmée pour aujourd'hui dans la capitale. Zakaria Camara, Conakry, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'opposition parlementaire dit avoir introduit un recours devant le Conseil constitutionnel contre la modification du code électoral. Le texte adopté en juillet par la majorité présidentielle est jugé divisionniste et dangereux par ses adversaires. Le nouveau code électoral consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces pouvant servir à l'inscription sur les listes et au vote, mais exclut l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. République démocratique du Congo, le président français Emmanuel Macron a salué la décision du président Kabila de ne pas se présenter à la prochaine élection, conformément à son engagement de respecter les termes de la constitution congolaise. RDC toujours, épidémie d'Ebola, la vaccination contre la fièvre hémorragique a commencé hier parmi des populations à haut risque dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'annonce le gouvernement. 9 décès ont déjà été enregistrés dans cette province de l'Est de la RDC, frappée par des conflits. Les États-Unis et la Chine annoncent des dons de véhicules à l'armée centrafricaine. La Chine a offert 75 véhicules emboîtant le pas aux États-Unis et qui en ont donné 57 selon les autorités de Bangui. L'objectif est d'aider à la reconstruction des forces armées centrafricaines. Quelques jours après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir, le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret d'amnistie pour les rebelles et l'ex-vice-président Riek Machar. On fait le point avec Ekia Badou.
Le président Salva Kiir a publié un décret amnestiant Riek Machar et d'autres groupes qui avaient pris les armes depuis 2013. Ce décret prend effet en date du 8 août 2018, selon le texte lu sur la radio nationale à Juba. Salva Kiir a de nouveau appelé ses troupes au respect du cessez-le-feu signé en juin avec Riek Machar. L'amnistie doit tracer la voie pour mettre fin au conflit et à la guerre dans notre pays, a déclaré le président sud-soudanais dans un discours. Les négociations vont en effet se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Nous devons œuvrer à l'unité de notre peuple, a conclu Salva Kiir. Un accord global signé en août 2015 était devenu caduc après une bataille meurtrière en juillet 2016 à Juba entre forces gouvernementales et rebelles. Depuis ces combats, Riek Machar vivait en exil. Les négociations sous l'égide de l'IGAD vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif.
Comores, l'Union européenne juge préoccupant les événements survenus dans l'archipel. Bruxelles s'inquiète des réactions violentes suite à l'annonce des résultats du référendum du 30 juillet, les récentes arrestations, y compris celles du secrétaire général du parti Djouwa et la mise en résidence surveillée de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Tendai Biti, figure de l'opposition zimbabwéenne, a été expulsé de la Zambie vers son pays. Ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale entre 2009 et 2013, il avait franchi hier la frontière zambienne pour y demander l'asile politique, démarche qui intervient alors que son parti s'apprête à déposer un recours contre les résultats des élections du 30 juillet au Zimbabwe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, au moins 29 enfants âgés de moins de 15 ans ont été tués dans une attaque qui a visé un bus dans le nord du pays. Tel est le bilan annoncé par la Croix-Rouge. La coalition sous commandement saoudien intervenant militairement au Yémen avait admis avoir mené une opération militaire dans le secteur. Et Syrie, les forces du régime ont bombardé des positions rebelles et djihadistes dans la province d'Idleb et largué des tracts appelant les habitants de ce bastion insurgé à se rendre. Le président syrien Bachar al-Assad a récemment prévenu que cette province frontalière de la Turquie, la dernière à échapper à son contrôle, constituait l'une des priorités de son armée. Le processus de réconciliation proposé par le gouvernement s'apparente à une capitulation pour les rebelles, car il prévoit des cessez-le-feu en échange du retour du régime dans les zones insurgées et du transfert de certains rebelles vers d'autres zones en Syrie. Proche-Orient, le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza ont annoncé stopper leur barrage de roquettes déclenché la veille contre Israël, mesure qui intervient après une nuit d'hostilité ayant coûté la vie à une Palestinienne enceinte et son bébé. Sachez enfin qu'au Gabon, les salariés du groupe radio-télévision RTG ont entamé un mouvement de grève illimité. D'après le syndicat des professionnels de la communication, ils réclament une revalorisation salariale. Un service minimum sera assuré avec des journaux télévisés n'excédant pas 5 minutes au lieu de 30. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée aujourd'hui par Nathalie Barge.
À l'occasion de la Journée internationale pour les populations autochtones, l'Union européenne a annoncé que 6,9 millions d'euros seraient consacrés à l'arrangement international pour le régime foncier et forestier. 5 millions d'euros supplémentaires seront octroyés aux organisations œuvrant sur l'accaparement des terres, le changement climatique et les droits des populations autochtones et communautés locales. La compagnie de services financiers Atlas Mara a obtenu la restructuration d'une dette de 40 millions de dollars due à Fairfax Africa Holding, qui lui a facilité la prise de participation majoritaire dans le capital du groupe bancaire nigérian Union Bank. En plus de toucher des dividendes dans sa qualité de premier actionnaire d'Atlas Mara, la holding canadienne percevra un taux d'intérêt de 10%. 31 athlètes congolais qui participaient aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger et n'avaient pas de billet d'avion pour rentrer ont finalement pu rejoindre la RDC mercredi soir, 10 jours après la fin de la compétition. Selon l'agence ADIAC, le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo, et le trésorier Roger Bondembe Bokanyanga ont payé les billets d'avion pour le retour des jeunes à Kinshasa.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, enfin l'Afrique tient sa première victoire.
Oui, puisque le Nigeria a battu Haïti 1-0 grâce à l'ouverture du score d'Adibadé en première mi-temps. Les Nigérianes se relancent dans ce tournoi après la défaite des Chinoises 2-0 face à l'Allemagne. Le prochain match qui verra justement s'affronter la Chine et le Nigeria pour une place en quart de finale. L'autre match de ce jeudi a vu les Espagnols battre les Japonaises 1-0.
Arrivé au Cameroun du nouveau duo de sélectionneurs.
Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, le néerlandais Clarence Seedorf, est arrivé au Cameroun, tout comme le sélectionneur adjoint Patrick Kluivert. Seedorf a été reçu par Dieudonné Happy, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT.
Les derniers transferts avant la fin du mercato en Angleterre.
Le défenseur central de Barcelone, Yerry Mina, a rejoint Everton, tout comme l'ailier brésilien Bernard et le milieu portugais André Gomes. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les deux clubs à quelques minutes de la fin officielle du mercato de la Première Ligue. Hier, le gardien belge Thibaut Courtois a signé pour le Real Madrid, où il s'est engagé pour 6 saisons. La transaction est estimée à 35 millions d'euros. Quant à Nancy, le club a officialisé la signature du milieu de terrain franco-congolais Christopher Maboulou. Le joueur de 28 ans était à l'essai depuis le début du mois de juillet. Maboulou, passé par Châteauroux et Bastia, a signé un contrat d'un an avec ce club de Ligue 2.
Et enfin, tour cycliste du Rwanda.
95 km pour la 5e étape ce jeudi entre Karanji et Rubavu. Deuxième victoire d'étape sur ce tour pour le Belge Julian Elman qui s'impose avec 2 petites secondes d'avance sur le Sud-Africain Julius Jade et 3 secondes sur l'Espagnol David Lozano. Au général, Samuel Mugisha, le Rwandais, reste en jaune. Demain, c'est la 6e étape, 108 km entre Rubavu et Kinigi.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, après plusieurs mois de tensions, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a mis fin à son alliance avec le parti du président Alassane Ouattara, faisant éclater la coalition au pouvoir depuis 2010. Pourquoi cette rupture ? Yacouba Ouédraogo a joint Ferro Bali, journaliste à Abidjan.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a choisi la rupture pour ne pas continuer le jeu du chat et de la souris avec le RDA. Le PDCI RDA a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara depuis 2010. En 2015, l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédier, avait fait l'appel d'Aoukro pour que tous les partis de la coalition RHDP s'alignent derrière le chef de l'État sortant Alassane Ouattara. Mais lui, il espérait en retour que en 2020, la coalition ferait en sorte qu'un militant du PDCI soit candidat et soutenu. Tel n'est pas le cas.
Est-ce la création en juillet dernier du parti unifié RHDP par le président Ouattara qui a précipité quand même les choses?
Naturellement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, est le président du directoire des présidents du RHDP. Et ce n'est pas lui, Vu Bédié, qui a convoqué cette réunion du parti unifié RHDP. Autre chose, c'est que des militants se réclamant du PDCI RDA et conduits par le ministre Adjoumani Kobena ont créé sur les traces du président Oufo-Boigny. Ce mouvement a été déclaré interdit au PDCI RDA. Mais ce sont ces militants qui ont signé l'acte de naissance du parti unifié. Naturellement, le PDCI a interprété tout cela comme une manière de lui tourner dos.
Cette rupture intervient alors que rien qui est, le président Ouattara et le patron du PDCI, Henri Konan Bédié, se sont rencontrés.
Justement, cette rencontre a été l'occasion pour le président Bédié d'informer son cadet que désormais, l'alliance politique qui a prévalu jusque-là est rompue.
Quelles sont les implications de cette rupture pour le PDCI?
Le PDCI entre ainsi officiellement et formellement dans l'opposition. Et naturellement, le PDCI a ouvert les bras dans son communiqué à tous les Ivoiriens qui verraient les choses de la même manière que lui pour tenter de conquérir le pouvoir d'État en 2020.
Les élections locales, c'est pour octobre. Après ça, il y a la présidentielle en 2020. Faut-il entendre que le PDCI va présenter et des candidats pour les élections locales et pour la présidentielle de 2020?
Le PDCI a dit que pour les élections locales, municipales et régionales, ce sont ces militants qui seront soutenus. Et pour la présidentielle, naturellement, le PDCI a toujours dit, avec ou sans le soutien du RHDP, il aura un candidat en 2020.
Voyez-vous Alassane Ouattara ou Henri Konan Bédié, candidat à la présidentielle de 2020?
Je suis convaincu, ça n'engage que moi, que le président Ouattara ne sera pas candidat. Il a fait deux déclarations en presque deux mois qui disent clairement qu'il veut se retirer. Quant au président Henri Konan Bédié, là, je ne peux pas vous dire clairement quelle est ma conviction. Toutes les options sont possibles au PDCI RDA.
Ferro Bali, journaliste joint à Abidjan.
Raïssa Girondin avec vous. Dans Washington Forum ce jeudi, coup de projecteur sur la Côte d'Ivoire. À deux ans de la fin de son mandat, le président Alassane Ouattara a annoncé une amnistie en faveur d'environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame, Simone Gbagbo. Réforme de la commission électorale, lancement d'un nouveau parti unifié, vœu de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Pourquoi toutes ces annonces? Quel chemin vers la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Mali, une dizaine de civils peuls ont été tués mardi dans le centre du pays. Ces personnes devaient se rendre à la foire de Sofara, à 80 km au sud de Mopti. Les dozos, chasseurs traditionnels, sont pointés du doigt. Idriss Fall a joint Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulakou, une association de la communauté peul du Mali.
L'acte est passé le mardi. C'était des marchands, ils partaient au marché de Sofara. Et nous, en peul, on appelle la zone Kaka. Ils traversent les fléaux. Vers 10h du matin, leur pirogue a été stoppée par des hommes habillés en sacerdozo, lourdement armés. Vers 14h, 16h, ces gens arrêtés, il y a eu une sélection. 14 ont été retenus, 3 autres ont été libérés. Et les 3 ne sont pas de la communauté peul. Mais les autres 14 retenus sont tous des Peuls et ils ont été tous aussi massacrés. D'ailleurs, l'enterrement de ces 14 personnes a eu lieu aujourd'hui.
Mais on croyait que les problèmes entre les Peuls et les Dozos, c'est que c'était fini et réglé.
Non, pas du tout, même pas. Ça continue toujours. Et d'ailleurs, pour votre information, même ce matin, il y a aussi un petit village, toujours dans le cercle de Guéné, qui a été aussi attaqué par ces mêmes sacerdotes. Et là-bas aussi, 3 personnes ont été tuées.
Ces Dozos, ils opèrent comment? Parce que dans le centre du Mali, il était interdit de porter des armes de guerre, il était interdit de rouler en moto.
Oui, c'est interdit pour certaines communautés, mais pas pour d'autres. Depuis presque une année, c'est interdit. Mais malheureusement, ces Dozos continuent toujours à rouler sur des motos, d'ailleurs des dizaines de motos, et avec les armes de guerre, sans problème. D'ailleurs, l'un des 3 personnes qui ont été libérées, l'un d'eux expliquait comment est-ce que ce donjo a été habillé. Il disait qu'il était habillé en tenue donjo, mais les chaussures là, c'est des rangers, c'est que les militaires portent. C'est ces chaussures là que ce donjo aussi portait.
Il y a un mois, le ministre de la Défense avait reconnu l'implication de l'armée dans l'assassinat de 25 civils vers Mopti. Est-ce qu'il y a une suite à cette affaire?
Pas à notre connaissance. Pas d'arrestation, pas de sanction. Et ça continue toujours.
Est-ce qu'on a su qu'est-ce qui avait tué ces 12 civils-là dans un marché dans le centre du Mali?
Oui, ça c'est à Boulkissi, près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne. Le Mali fait partie du G5 Sahel, donc ils étaient en groupe près de la frontière burkinabé. C'est l'armée malienne qui a massacré, ils ont tué ces 12 civils dans le marché. Et d'ailleurs, l'administration même a enquêté sur ça. Ils ont même reconnu que l'armée a tué ces 12 civils. Je vous dis toujours, il n'y a pas eu de sanction. Il n'y a même pas d'enquête. Parce qu'on nous dit toujours, oui, il y a eu enquête ouverte, mais l'enquête n'aboutit absolument à rien.
Abdoulaye Diko, porte-parole de Tabital Poulakou, une association de la communauté Peul du Mali.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au Congo, le gouvernement a déployé ce mercredi des membres de la commission mixte paritaire pour la paix dans le Poul. C'est dans les sites où se dérouleront le désarmement des ex-combattants ninja. Le pasteur Ntumbi, qui dit ne pas être associé à ces différentes étapes, a appelé dans une déclaration la communauté internationale à s'impliquer dans ce processus. La correspondance d'Arsène Séverin à Brazzaville.
C'est un important convoi de véhicules chargé de matériel didactique et de camping qui a quitté Brazzaville mercredi en tout début d'après-midi pour les localités comme Kinkala, Kibwende, Misafu, Kinkembo dans le Poul où se déroulera le ramassage d'armes illégalement détenues par les ex-combattants ninja. Le président de la commission mixte paritaire, Séraphin Ondélé, a déclaré à VOA Afrique qu'il était question de s'en tenir à l'agenda des opérations défini d'accord parti avec le camp de Ntumi. Le calendrier a été validé par le pasteur Ntumi et nous l'avons envoyé au chef de l'État qu'il a ensuite distribué aux partenaires internationaux. Nous ne pouvons donc plus faire marche en arrière, a affirmé Séraphin Ondélé, souhaitant ne pas directement s'exprimer au micro. Pourtant, le camp du pasteur Ntumi murmure la frustration. Dans une déclaration publiée mardi et dont copie est parvenue à VOA Afrique, le pasteur Ntumi réclame sa place au cœur de cette opération. Philippe Anébibi est son représentant personnel.
Toutes les démarches que nous avons entreprises dans le sens de ramassage des armes l'ont été à travers l'implication personnelle du révérend Pasteur Ntumi pour sa réussite. Je pense qu'il est tout à fait important et normal que le révérend rappelle sa place d'ambassadeur auprès des ex-combattants pour qu'il joue pleinement son rôle. Nous n'avons pas encore rendu compte que nous sommes informés maintenant que les équipes sont prêtes pour aller sur le terrain.
Les autorités estiment avoir levé tous les obstacles empêchant le bon déroulement du désarmement, notamment la levée des poursuites contre le Pasteur Ntumi et récemment le retrait des troupes militaires dans les zones où résiderait le chef rebelle. La société civile de son côté appelle les deux parties à s'accorder afin d'épargner les populations d'un énième supplice. Trésor Ndila Kende de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, une ONG locale, renvoie Dozado Ntumi et le gouvernement.
Un accord qui consacre l'impunité n'est jamais durable. Dans un accord, il est toujours important que les deux parties dialoguent. Prenons le cas de M. Ntumi, qui est un personnage clé dans la mise en œuvre de cet accord. Si on essaie de le contrôler, les choses ne vont pas aller. M. Ntumi doit tout faire à ce que ce qu'ils se sont convenus dans cet accord soit respecté.
Selon le calendrier validé par chaque partie, il est prévu que le pasteur Ntumi sorte de forêt le 10 août et rencontre le ministre de l'Intérieur un jour après. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Centrafrique, l'assassinat de trois journalistes russes continue de susciter des questions. Au-delà du fait divers, c'est la présence russe dans le pays qui interroge, puisque des militaires russes assurent déjà la protection du président Touadéra et qu'une société de sécurité opère aussi en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par les groupes rebelles. Pour un éclairage, Nicolas Pinault a joint Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
On commence à reparler de la présence russe en Afrique, mais il faut quand même relativiser. Juste un élément, quelques chiffres, le commerce entre la Chine et l'Afrique en 2017, c'est 170 milliards de dollars. Le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était en 2017, 13,8 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Bref, c'est 10 fois moins que le commerce entre la Chine et l'Afrique. Il y a quelques points d'ancrage de la Russie en Afrique, le Maghreb et l'Égypte, aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, mais la Russie développe aussi des rapports avec d'autres États d'Afrique centrale et un peu dans l'Afrique de l'Ouest.
Quel intérêt pour Moscou de renforcer ses liens avec le gouvernement centrafricain ?
Ce n'est pas un secret, la République centrafricaine n'est pas un État très riche, mais côté enjeu économique, l'or et les diamants, ce n'est pas un enjeu crucial. La Centrafrique, c'est aussi le pétrole, et il y a des réserves de pétrole assez importantes dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Pour le pétrole, le problème, c'est l'enclavement. Si on commence à exploiter le pétrole d'une manière importante, il faudra désenclaver et construire des oléoducs. Enfin, c'est l'uranium, le fameux gisement de Bakouma qui a été découvert par des experts français après la guerre. Tout le saga d'Arriva, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec le gisement de Bakouma? Est-ce que les Russes cherchent à se positionner d'un côté stratégiquement et aussi de se positionner par rapport à l'exploitation des richesses naturelles de la République centrafricaine.
Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Nachouane Calé, présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.